Bonsoir au public de la librairie Mola et bonsoir à notre invitée Brigitte Durruty.
Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être là.
Qui nous fait le plaisir donc de venir à Bordeaux, mais pour qui l'Aquitaine n'est pas étrangère, je crois.
Non, pas du tout. Je vis actuellement en Belgique depuis 30 ans, mais comme mon nom l'indique, je suis originaire du Pays Basque. Donc je suis devenue bruxello-basque. Mon cœur oscille entre les deux.
Et donc, vous publiez Parents Zen aux éditions de l'Homme, mais avec une complice.
Oui, tout à fait, avec Catherine Chouény, qui est une de mes amies, qui est psychologue et formée comme moi à l'approche neurocognitive et comportementale. Et on partage les deux la même passion d'accompagner les humains dans toutes les situations de crise sur lesquelles ils ont du mal à vivre les situations qu'ils traversent. On est toutes les deux entourées de beaucoup beaux-enfants. Et donc voilà, on a eu envie d'adresser ce livre d'abord au monde de la famille, au monde des parents, pour donner des clés pour pouvoir vivre avec plus de sérénité ces situations qui nous pourrissent la vie, parfois qui nous empestent le quotidien.
Alors le titre « Parents zen » au singulier montre qu'on s'adresse à peu près à tout le monde.
Oui.
Rares sont les personnes qui ne sont pas parents, beaux-parents ou de près ou de loin en lien affectif et familial avec des enfants.
Tout à fait. Alors ça s'adresse effectivement quand vous dites parents, mais ça s'adresse au-delà de la parentalité. C'est dans toute relation familiale, ça peut s'adresser à un oncle avec ses neveux. Et ça s'adresse aussi, moi mes parents ont 80 ans, mes enfants en ont entre 20 et 25. Mais ce que j'ai écrit dans le livre, on va le retrouver de la même façon dans ce que je vais vivre vis-à-vis de mes parents ou vis-à-vis de mes enfants. Donc c'est interchangeable. Ce n'est pas limité à la relation entre le parent et l'enfant, et le petit enfant en tout cas.
En plus, j'ai vu que vous aviez également travaillé l'analyse transactionnelle.
Oui.
Et donc là, on est toujours le parent de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un.
Absolument.
Et soi-même, on est à la fois son parent, son enfant, etc.
Tout à fait.
Donc ça doit aussi interférer, je pense, dans votre réflexion.
Oui, tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse transactionnelle, un petit mot, quelque chose de très simple. L'analyse transactionnelle dit que dans toute relation, il y a des transactions. Alors, il y a des transactions qui sont saines. C'est chaque fois qu'on est en relation autour de nous, quelque part, en ayant clairement établi le type de relation qu'on va avoir. Et dans ces cas-là, on a une relation qui est à la fois adulte, qui est à la fois parent et à la fois enfant. Et puis, on a des relations qui sont plus malsaines, c'est quand on est dans les non-dits ou quand on est dans des transactions cachées. C'est-à-dire que si je suis en relation avec quelqu'un et que je veux obtenir quelque chose et que j'ai une relation de façade, mais que ce que je veux, c'est l'obtenir par-dessous, ben, ce sont des relations qui sont moins saines. Donc c'est vraiment un très grand raccourci de l'analyse transactionnelle. Hein. Mais c'est ce qu'on peut retrouver dans le parallèle, dans le livre aussi, c'est qu'il y a certaines de nos communications sont claires. Et puis d'autres, elles ne sont pas claires, parce que pour tout un tas de raisons, on n'arrive pas à dire clairement ce que l'on voudrait communiquer, et c'est souvent là qu'on a le plus de mal. Et c'est parfois parce qu'on a peur de faire mal à l'autre, ou on ne le comprend pas, ou on a interprété un mot. On est beaucoup dans l'interprétation et dans le jugement, dans les relations qu'on a avec les autres. Donc la toute première chose à laquelle moi j'invite les gens qui sont autour de moi, c'est tenter de ne jamais être dans ce jugement et de rester dans des faits. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez factuellement ? Essayez de ne pas mettre de jugement, parce que le jugement est quelque chose qui va souvent déformer tout ce que l'on va vivre. Parce qu'on va y mettre une couleur, on va y mettre une teinte, et on n'est pas sûr en fin de compte que c'est ce que l'autre a vraiment voulu faire ou dire.
Et on est dans une interprétation à la lumière de ses propres valeurs.
Voilà,
on
tout
y reviendra,
à fait.
Mais c'est très important
oui.
dans ce que vous avez écrit.
Oui.
Alors, vous avez prononcé un mot clé qui est vraiment fondamental, c'est le mot de santé.
Mm-hmm. Hein,
des relations saines ou moins saines, etc. Et effectivement, c'est un livre qui nous fait du bien.
Et j'en suis ravie.
Et qui vise à une meilleure santé entre les personnes, et en particulier dans le milieu proche, quoi, qui nous est le plus cher et qui aussi pose quelquefois le plus de problèmes critiques.
Oui, et cette santé, je dirais que dans la relation avec notre famille, en général, dans notre famille, ce sont des gens qu'on aime, elle me semble vitale. Une des raisons qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est que je me suis souvent rendu compte que avec des gens qu'on aime, donc des gens de notre famille, on n'arrive pas à dire des choses assez relativement simples. Et finalement, on s'enlise dans des relations qui finissent par devenir très problématiques et qui peuvent faire très, très mal. Et souvent, en fin de compte, au départ, c'est une confusion, c'est une interprétation. Donc, ce que j'écris dans ce livre, ce que j'explique, c'est qu'on a à chaque fois deux façons de vivre une même situation. On a deux modes mentaux, puisque j'y mets un petit peu ce que la lecture des neurosciences, dans ce que les neurosciences nous permettent de savoir aujourd'hui sur le fonctionnement de notre cerveau. Et ce que nous expliquent les scientifiques aujourd'hui, c'est que nous avons comme quatre pilotes dans notre avion, dans notre cerveau, qui
vous
vont
allez,
engendrer...
Vous allez un peu vite, là.
Je vais un peu vite.
Oui, c'est ce que je voulais aborder D'accord. après. C'est-à-dire que... On croit avoir affaire à un livre de conseils pour les relations familiales ou pour éduquer ses enfants. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a un petit traité, mais extrêmement clair et simple, mais de choses qui sont un petit peu à la pointe de la recherche, c'est-à-dire les neurosciences. On a un petit peu un traité de neurosciences appliquées. Et donc, vous expliquez que nous avons quatre cerveaux.
Oui. Ou plus précisément, quatre pilotes dans notre cerveau qui vont prendre des décisions différentes.
Vous l'expliquez, mais en même temps, vous en faites un petit peu l'historique. Enfin, comment ces cerveaux sont apparus les uns après les autres. Enfin, il y a des choses qu'on connaît, mais c'est tellement mis en perspective et rendu opérationnel avec des anecdotes et des témoignages que tout d'un coup, on a l'impression d'avoir fait un pas en avant dans les connaissances, pas seulement dans une sorte de savoir-faire pragmatique ou empirique, mais vraiment dans des connaissances scientifiques. Et c'est ça, je crois, la grande originalité du livre.
Ben, j'en suis ravie parce que c'est ce que j'avais envie de transmettre. Donc, c'est ce qui ressort à la lecture du livre. C'est vraiment une bonne nouvelle.
Oui, parce qu'on voit le titre « Zen ». Bon, dans le sous-titre, on voit « Stress ». Donc, bien sûr, il y a cette opposition « stress contre zen ». Comment rester zen alors qu'on est stressé et qu'on est de plus en plus stressé dans tous les domaines de la vie, mais en particulier au sein de sa famille et avec ses propres enfants. Et puis, en fait, vous faites une sorte de détour ou de préalable, mais très, très important. Le socle scientifique, vous l'installez d'abord. Et donc, je vous laisse maintenant parler des quatre pilotes cerveau.
Donc, ces quatre pilotes, ce qui veut dire que chaque fois que nous réagissons, chaque fois que nous sommes en action dans la vie, il va y avoir plusieurs pilotes qui vont prendre des décisions. Et on est tous faits de la même façon, humains, qu'on soit des hommes, qu'on soit des femmes, qu'on soit européens, asiatiques, américains, on est tous faits de la même façon, hors pathologie. Et ces quatre types de pilotes vont engendrer des types de réactions différentes. Alors, pour être un peu simpliste, mais pour vous l'expliquer dans les grandes lignes, il y a un premier pilote qui est instinctif. Donc, ce premier pilote, c'est lui qui va faire que tout au long de la journée, il va vous permettre de rester en vie. Et il est très basique, c'est-à-dire que quand tout va bien dans votre organisme qui ne perçoit pas de danger, il est débranché. Et dès qu'il perçoit un danger, il va réagir en s'assurant que vous restiez en vie. Et comment il réagit? En vous envoyant du stress. Donc le stress, c'est un mécanisme naturel et instinctif qui va nous permettre de rester en vie. Mais ce pilote instinctif, vous voyez, il passe son temps à se demander est-ce qu'il y a un danger? Il y a un danger. Et dès qu'il le ressent, il envoie du stress. Deuxième pilote, il va prendre des décisions pour tout ce qui est hiérarchique, quelque part, et c'est le rapport de force. Donc nous sommes des animaux, grégaires, ce qui veut dire que nous avons dans notre cerveau la mémoire que si nous vivons seuls, on meurt. C'est que pour survivre, il ne suffit pas que je survive moi, mais il faut au moins qu'il y ait une bande de copains humains qui survivent pour qu'on puisse se reproduire et assurer la survie de l'espèce. Donc il y a un pilote dans notre cerveau qui va assurer cette survie de l'espèce, la survie du groupe. Et qu'est-ce qu'on retire de tous les groupes, tous les mammifères grégaires? C'est que pour augmenter la survie de l'espèce, il y a un équilibre qui se fait entre une majorité d'entre nous qui sont plutôt soumis et une minorité d'entre nous qui sont plutôt dominants. Et tout ça, c'est pour que l'équilibre se fasse. Si nous étions tous dominants, nous passerions notre temps à nous battre et donc il y aurait péril pour la survie de l'espèce. Si nous étions tous soumis, nous passerions notre temps à subir. Donc, il y aurait aussi un péril pour la survie de l'espèce. Donc, dans toute espèce animale, il y a cet équilibre qui se fait. Et donc, ce pilote, il va prendre des décisions, mais des décisions dans le rapport de force. Donc, quand c'est ce deuxième pilote qui intervient dans vos décisions, c'est le moment où vous y allez en vous disant, dans cette relation, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Donc, quand instinctivement, si c'est aussi un pilote instinctif, pulsionnel, sans vous en rendre compte, vous vous dites qu'ici, il y a un supérieur et un inférieur. Il y en a un qui doit gagner, un qui doit battre. Donc ça donne des relations qui sont... Alors c'est très binaire, ça peut être très utile, mais c'est frontal. Et c'est du rapport de force. Donc ça, c'est le deuxième pilote. Et il est instinctif. Puis on continue à monter dans les étages. Il y a un troisième pilote qui est beaucoup plus fin, qui est le pilote émotionnel. Alors c'est plus une caractéristique humaine, donc c'est dans le territoire limbique, c'est beaucoup plus développé chez les humains que chez les animaux. Et ce pilote, il va prendre des décisions émotionnelles. Ce qui veut dire que dans votre vie, il y a tout un tas de décisions que vous prenez, non plus par instinct, non plus pour être le plus fort ou vous soumettre, mais vous allez les prendre parce que vous aimez ou vous n'aimez pas. C'est-à-dire, et là on parle de valeurs, donc, tout un tas de vos décisions vont être prises. Si vous avez par exemple une valeur de ponctualité, que vous aimez la ponctualité, bien, vous allez prendre un ensemble de décisions pour qu'il y ait le respect de cette ponctualité. Et puis vous allez éviter tout ce qui va vous mettre en retard. Donc si vous êtes par exemple dans un embouteillage, alors que vous aviez prévu d'être à 5 heures à la librairie Mola, mais votre pilote émotionnel, il ne va pas aimer. Vous voyez, il va commencer à se rétracter. Donc ce pilote, il est très bien aussi parce qu'il nous fait prendre des décisions assez simples, mais il y a cet émotionnel qui va colorer et qui va faire que tant qu'on est face à quelque chose qu'on aime, tout va bien. Tant qu'on est face dans notre famille à des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui mangent comme nous, qui ont la même conception du travail, qui ont la même conception de l'argent, qui ont la même conception de la relation familiale, tout va bien. Et quand on est face dans notre famille à des gens qui n'ont pas ces mêmes valeurs, ben, on n'aime pas. Et ce pilote-là, il devient vraiment, il nous envoie des émotions très négatives. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a un quatrième pilote qu'on appelle le territoire adaptatif, donc qui est un territoire qui se trouve ici, sous le préfrontal. Alors, la nature humaine est extrêmement bien faite, parce que le rôle de ce pilote, lui, c'est d'aller gérer toutes les situations qui sont complexes et inconnues. Et lui n'est plus dans l'émotionnel. Lui, face à des situations qui sont complexes, il va vous dire, OK, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'agis tout seul? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il vaut mieux en parler plus tard? Vous voyez, ce pilote-là, il est plus factuel. Il n'a pas aimé ou pas aimé. C'est un pilote qui fait son boulot, en fin de compte, c'est d'aller processer des solutions pour vous permettre de réagir. Et cerise sur les gâteaux, quand vous vous servez ce pilote-là, il vous envoie de la sérénité. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que chaque humain, à nouveau, hors lobotomie ou pathologie, possède un territoire dans son cerveau qui lui permet de gérer la complexité avec sérénité. C'est-à-dire que nous sommes tous neurologiquement câblés pour pouvoir faire face à des situations problématiques avec calme. Alors, vous allez me demander, ben alors pourquoi est-ce qu'on stresse aussi souvent ? À cause de l'émotionnel, donc le troisième pilote. Nous sommes par défaut émotionnels. Donc, c'est le pilote le plus rapide, c'est celui qui va d'abord prendre les commandes. Et pourquoi est-ce qu'on est par défaut émotionnel ? Parce que ce sont les émotions qui nous permettent de nous rappeler ce qui a fonctionné ou pas. Si nous n'avions pas de pilote émotionnel, on ne se rappellerait pas la fois où ça n'a pas marché. Vous voyez, on ne serait pas capable d'apprendre. Pour apprendre, il faut se rappeler que si je rapproche la main du feu, ça brûle, il y a une douleur, j'aime pas, j'arrête de me rapprocher la main du feu. Vous voyez, c'est par cette binarité, on appelle ça le conditionnement opérant, qu'on apprend. Donc comme on est par défaut émotionnel, on va par défaut bloquer et ne pas aller recruter ces territoires qui nous permettent de gérer avec complexité. Et donc le but du livre, c'est vraiment d'abord d'expliquer ça, parce que quand on comprend, d'abord c'est chouette de savoir qu'on a ce territoire dans notre cerveau. Et puis après, c'est comment on va faire, par quels petits outils, quels petits trucs on va pouvoir plus souvent aller basculer dans ce territoire-là. Donc comment on va plus souvent retrouver notre sérénité. Et puis comprendre aussi chacun d'entre nous, parce que c'est très propre à chacun, qu'est-ce qui va nous empêcher chacun de garder notre sérénité.
On voit aussi dans cette description que ces quatre fonctions du cerveau résument un petit peu l'histoire de l'humanité et même peut-être du vivant.
Oui.
Depuis le cerveau reptilien qui est en mode survie, oui. Or on est aujourd'hui rarement en danger de mort au quotidien, jusqu'au préfrontal qui est le plus élaboré et le plus humain finalement dans le cerveau. Oui. Et donc on se dit aussi que bien souvent on régresse. Quoi.
Alors on peut avoir ce sentiment souvent de régresser, et c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit est-ce que le préfrontal, donc ce quatrième pilote qu'on appelle aussi le préfrontal, qui nous envoie de la sérénité. Les gens me demandent, mais est-ce que ce préfrontal n'est pas en train de diminuer parce qu'il y a de plus en plus de stress autour de nous, et j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus agressifs et de mauvaise humeur. Non, pas du tout. Au contraire, ce territoire-là est plutôt en train d'évoluer. Il semblerait que les enfants, nos jeunes enfants, soit plus adaptatif que nous. Par contre, ce qui se passe, c'est que le monde moderne nous envoie tellement de stimuli, à longueur de journée, nous en envoie tellement que la quantité de choses que nous devons faire, la quantité de choses auxquelles nous devons nous adapter sur la journée est tellement grande qu'en fin de compte, on bascule plus souvent en stress qu'il y a 50 ou 60 ans. Je ne sais pas si vous savez, mais nous vivons aujourd'hui sur une journée plus de stimuli extérieurs qu'un homme du Moyen-Âge vivait sur la totalité de sa vie. Donc, pour vous dire un peu le nombre, le cerveau se rappelle de tout. Tous les livres que votre cerveau a photographiés quand vous êtes rentré dans cette pièce, il a mémorisé. Nous mémorisons toute l'information et 98% de l'information part dans l'inconscient, mais elle est là. Et donc, on est tellement harcelé toute la journée d'une multitude d'informations et de plus en plus variées, puisqu'on rencontre de plus en plus de gens qui sont de plus en plus différents de nous, que ça devient plus difficile aujourd'hui de rester serein qu'il y a 50 ou 60 ans, quand on ne croisait finalement que son grand-père, sa grand-mère, le voisin et les deux gens de la personne de la maison d'à côté.
Alors bien sûr, nous avons tous regretté, mais c'est trop tard, de nous être énervés après un enfant, un collègue, un ami même. Et pourtant, même en ayant lu le livre, ça continue d'arriver.
Alors, je vais vous rassurer, chez moi aussi. ne vous fustigez pas quand vous vous énervez. Dites-vous que c'est une réaction normale. Ce qui est beaucoup plus intéressant, par contre, c'est vous dire qu'est-ce que j'en retire de cet énervement ? Et qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour garder mon calme ? Parce que se fustiger en disant « j'y suis pas arrivée », c'est pas très intéressant. La culpabilité, c'est pas très très intéressant. Demandez-vous plutôt, d'abord, pourquoi est-ce que je me suis énervée ? Qu'est-ce qui m'a fait démarrer ? Moi, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Et qu'est-ce qui m'a fait démarrer ? C'est que je cherche plus un coupable. Je cherche la valeur que je n'aime pas. Je me dis, OK, ça, c'est le manque de politesse. C'est ce que moi, je vis comme un manque de politesse. La personne n'a pas dit bonjour, ça, moi, je n'aime pas. Du coup, ça m'a énervée et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle mal à cette personne. OK. Et puis là, une fois que j'ai trouvé mon anti-valeur, j'ai un petit exercice, je vais me chercher les avantages de ce que je n'aime pas. Et ça me permet de revenir en calme. Donc, dès que j'ai trouvé ce qui coince, en fin de compte, je fais des petits exercices qui reviennent en calme. Et pour rebondir par rapport à ça, il y a une chose majeure que je transmets dans ce livre, c'est que on sait aujourd'hui que le cerveau est plastique. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la plasticité du cerveau. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, que le cerveau est plastique ?
Il peut se réparer.
Voilà, il se répare, c'est-à-dire qu'il est malléable. Ça veut dire que ce que l'on découvre depuis une trentaine d'années, c'est que notre cerveau n'arrête pas de faire des branchements, de nouveaux branchements. Toute sa vie. Si vous vivez centenaire, même à 100 ans, votre cerveau continuera à faire des nouveaux branchements. À nouveau, hormis pathologie ou hormis lobotomisation. Alors, il y a un petit bémol. C'est que ça s'entretient. C'est comme le jardin. Si vous continuez à prendre du recul, à nuancer, à remettre votre monde en question, être curieux, donc à vous ouvrir aux autres, mais vous continuez à faire de nouveaux branchements neuronaux. Donc, votre cerveau continue à se développer. Et à 100 ans, vous continuerez à être quelqu'un de curieux, qui peut gérer des choses différentes, quelqu'un qui continue à réfléchir, à nuancer, et quelqu'un qui peut garder son calme. Si par contre, à 40 ans ou à 30 ans, vous commencez à vous dire « moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai décidé, on mange à 7h, 7h07, ils sont plus là, on mange pas. » Donc si vous commencez à vous enfermer dans des règles très strictes, que vous dites « celui-là, il parle pas comme moi, ça m'intéresse pas. On m'a volé une fois, maintenant je me dis que les gens sont des voleurs, je me méfie de tout le monde. » Donc si vous construisez un monde dans lequel vous allez de plus en plus vous enfermer dans la peur, ou dans des attitudes fermées, rigides, peu nuancées, en faisant des généralités, vous allez devenir de plus en plus automatique. Donc vous allez arrêter, quelque part, d'arroser votre jardin. Vous allez arrêter d'aller arroser ce préfrontal, donc de faire des nouvelles connexions. Et alors, à 80 ans, vous serez certainement un vieux, pas très drôle, qui s'énervera pour tout, ce qui ne sera pas dans ses valeurs. Vous ne supporterez plus rien, vous penserez que les gens sont tous des égoïstes, que le bruit, ça vous agace, cette musique, c'est une musique de dingue, que de mon temps, c'était beaucoup mieux, les jeunes, ils respectent plus rien, même mes enfants, ils s'occupent jamais de moi, et vous serez un vieux grincheux qui ne supporte plus rien. Donc voilà, donc vous avez le choix. Continuez à arroser votre jardin, ou au contraire, de vous rétracter dans la rigidité. Et c'est un choix de responsabilité, mais qui n'est pas facile. C'est un petit peu comme vous avez le choix de faire la gymnastique tous les jours. Marchez tous les jours, et à 80 ans, vous irez bien. Arrêtez de marcher, et à 50 ans, vous serez perclus de rhumatisme, et vous lever cette chaise sera compliqué.
Voilà, c'est... Oui, vous citez justement un exemple, Rita Levi-Montalcini, qui oui. elle-même est neurologue, neurobiologiste en Italie, et qui a vécu jusqu'à 103 ans, oui. et qui prônait justement cette gymnastique... du cerveau.
Tout à fait. Alors, je vous invite, pour ceux qui vont sur Internet, allez taper Rita Montalcini. Elle est morte il y a un an ou deux, à l'âge de 108 ans. C'est la plus vieille.
Vous avez mis 103 ans.
Et à 103 ans, elle est morte. Et il y a une interview qui date de son 100e anniversaire, où on lui demande, mais qu'est-ce qui a changé entre maintenant et quand vous aviez 20 ans ? Elle dit, rien. Rien n'a changé. Je continue à travailler de la même façon, à réfléchir de la même façon. Ce qui a changé, c'est mon corps. C'est que, voilà, je mets plus de temps à faire, à marcher. Je mets plus de temps à faire un certain nombre de choses. Alors, mon cerveau peut oublier. J'ai peut-être une mémoire qui est moins aiguisée parce qu'il y a une usure de la mécanique. Mais j'ai la même capacité cognitive. Donc, c'est assez fabuleux. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on a tous la vieille croyance... qu'à partir de 20 ans, notre cerveau dégénère, parce qu'on l'a répété pendant très longtemps. Pendant très longtemps, on nous a dit, voilà, en gros, le summum de nos capacités cognitives, c'est 20-25 ans, et après, on n'arrête pas de dégénérer, et on n'arrête pas de régresser. Donc, plus on vieillit, plus c'est difficile d'apprendre. Ce n'est pas vrai. C'est une vieille croyance. Et s'il y en a une à briser aujourd'hui, c'est celle-là. Ce n'est pas vrai. Ce qui fera que ça sera plus difficile de changer, c'est si vous arrêtez de changer un jour. Et vous le voyez, vous avez certainement autour de vous des personnes qui sont âgées, mais qui sont extrêmement inspirantes parce que vous voyez dans leurs yeux que ces personnes ont gardé, elles ont toute la sagesse du monde. Elles ont peut-être traversé des horreurs dans leur vie, mais ce qu'elles en ont retiré, c'est une espèce de lumière dans les yeux. Et ces personnes vous diront, vis ta vie, tu sais, c'est... fais tes expériences. Ces personnes seront inspirantes parce qu'elles vous amèneront à réfléchir, elles vous ramèneront à vous. Et puis, vous verrez d'autres personnes qui vraiment seront rétractées et renfrognées, seront complètement, complètement fermées. Donc, c'est vraiment ces deux différences que vous verrez suivant le choix qu'on fait de rester dans l'ouverture ou dans la fermeture. Et évidemment, ben, quand on est dans l'ouverture, on n'arrête pas de faire des nouveaux branchements dans son cerveau, mais du coup, on n'arrête pas de devenir de plus en plus serein. Donc, ce que je constate, moi, je continue toujours à m'énerver, mais beaucoup moins souvent. Et surtout, ça ne dure plus. Je suis une femme du Sud, donc plutôt une sanguine. Je pouvais râler pendant longtemps. Petite, j'étais même capable de bouder pendant 3 jours, m'enfermer dans mes toilettes, et ma mère devait venir taper à la porte en me disant « Tu vas manger là, tu vas dormir là ». Donc, je pouvais vraiment rester en automatique longtemps. Et adulte, même, je pouvais piquer des... voilà, râler pendant longtemps. Depuis que je fais cette gymnastique et que j'ai compris que je n'avais aucun intérêt à rester dans ces états émotionnels, que la seule chose que je faisais, c'était me pourrir la vie, à moi. Donc depuis que j'entretiens cette gymnastique, je suis sidérée de constater à quel point je ne reste plus dans des états de stress. Donc j'y passe toujours. Et je pense que, hormis le Dalai Lama ou les gens qui font des milliers d'heures de méditation, c'est quasiment impossible de vivre nos vies modernes sans stresser. Mais par contre, je ne reste pas dans ce stress. Même quand j'en prends des nouvelles, voilà, potentiellement très dérangeantes ou des choses qui peuvent vraiment être difficiles à gérer, je ne reste pas dans ces états émotionnels.
Oui, considérer donc le fonctionnement du cerveau comme dépendant de nous et de notre gymnastique quotidienne, ça nous rend aussi le contrôle sur... justement sur ces stress, parce que vous oui. distinguez bien les stresseurs que l'on a tendance à croire extérieurs, et puis la stressabilité qui, elle, est plus dépendante de nous.
Oui. Oui, et ce sont deux concepts très différents, parce qu'en général, quand on parle de stress, on mélange les deux. On a le même mot pour utiliser, ben, pour définir cet élément extérieur. Donc, imaginons, par exemple, on va prendre la scène d'un enfant qui, ou un jeune adulte qui vient manger chez ses parents et qui n'arrête pas de se servir de son téléphone. Donc, pendant qu'on lui parle, il est comme ça à la tête, il est en train d'envoyer des SMS, des textos, et la tête sur son téléphone, il ne vous parle pas. Valeur, respect et toucher, ça nous agace. Donc, il y a deux choses. Il y a le stresseur, c'est l'élément extérieur sur lequel on ne peut rien faire. C'est-à-dire, je ne peux rien faire sur le fait que, face à moi, il y a un adulte qui a décidé que son téléphone était important. Par contre, ce que je peux faire, c'est la façon dont moi, je vais le gérer. Le stress que je vais ressentir. Si je reste en stress, donc si je suis agacée, je vais mal parler à cette personne. Je vais finir par lui dire, écoute, tu m'agaces, moi je t'invite à manger et ton téléphone est plus important que moi. C'est peut-être pas vrai, c'est une interprétation que le téléphone est plus important que moi. En tout cas, en lui parlant mal, il y a peu de chances que cette personne arrête de se servir de son téléphone. Parce qu'elle va me dire, oui, mais enfin, toi, quand tu es derrière ta télé, tu crois que tu es maligne, puis pof, on est parti dans la bagarre. Si par contre, je reprends ce que je peux faire, à savoir gérer ma stressabilité et rester calme, je vais être beaucoup plus fine, alors peut-être pour agir avec humour, peut-être pour confronter cette personne, pour lui faire prendre conscience à quel point ce n'est pas agréable d'être face à quelqu'un qui a toujours les yeux rivés sur sa machine. Voire, je peux très calmement dire à la personne, écoute, je t'avais invité à manger parce que tu es quelqu'un que j'aime, mais là, je me trouve face à quelqu'un qui est face à sa machine et ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis désolée, mais je vais partir. Ou, je ne t'inviterai plus. Mais là, vous êtes un humain calme qui peut sereinement dire quelque chose de calme. Et je vous assure que vous avez beaucoup plus de chances de changer la situation si vous arrivez à garder ce sang-froid que si vous passez par la case de l'énervement. Et là, je voudrais soulever un point que la sérénité, ce n'est pas une béatitude placide. Être serein, ce n'est pas le baba cool qui dit « zen, tout est cool, j'accepte tout, tu peux être sur ton téléphone à ne pas me regarder, c'est pas grave, plus rien n'est grave ». Ce n'est pas ça la sérénité. La sérénité, c'est la capacité à pouvoir dire calmement ce que l'on a envie de dire. Et ça peut être, hein, je suis désolée, mais dans ces conditions-là, moi je m'en vais. Ou je ne mange pas avec toi, ou je ne t'invite plus. Ou je suis désolée, moi, si ton téléphone est plus important que moi, je ne vois pas l'intérêt à ce qu'on se rencontre. Vous voyez, il y a une immense différence entre tous les deux. On fait souvent l'amalgame.
On voit bien que le conflit principal, il est entre le préfrontal et le néolimbique, c'est-à-dire entre justement cette capacité à prendre du recul et à parler froidement, et les émotions qui sont tout le contraire justement de la froideur.
Tout à fait.
Donc c'est plus conflit, on aime les gens et plus on est souvent débordé par les émotions.
Ben oui, c'est logique. Donc c'est le conflit entre le troisième pilote et le quatrième pilote. Bien sûr que plus on aime les gens, plus il y a d'émotions. Donc plus on a de risques. D'être démoralisé ou agacé ou d'avoir peur. Alors, gérer votre voisine ou la fille de votre voisine qui est rentrée avec des piercings partout, ça ne pose pas de problème, c'est assez facile. Vous direz facilement à votre voisin, écoute, c'est pas très grave, il faut que jeunesse se passe, il y a pire que ça, elle a de bonnes notes à l'école, c'est pas très grave son petit piercing. Si c'est votre enfant ou votre petit-enfant qui rentre à la maison avec un piercing, là, ça devient très grave. Enfin, c'est moche, comment t'as pu faire ça? Là, notre émotionnel est beaucoup plus impacté. Donc, on est beaucoup plus intelligent avec les enfants des autres. Hein. Ça, c'est la règle numéro un. Donc, il y a un exercice à faire quand vous perdez pied. Demandez-vous, qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami? Et là, déjà, on est très, très bon conseil pour nos bons amis, beaucoup plus que pour nous-mêmes. Mais c'est une façon d'aller reprendre le pilote de son avion, de se remettre à la gouvernance de son préfrontal.
En même temps, vous dites plusieurs fois qu'il faut relativiser. Enfin, ça fait partie de cette souplesse et de cette prise de recul. Mais relativiser, ça peut aussi être pris comme ne pas remplir complètement sa responsabilité de parent.
Oui, et relativiser, c'est un des processus avant d'arriver à la décision. Je vous prends un exemple très concret. Ma fille, à l'âge de 14 ans, 15 ans, me dit... Ouais, maman, c'est bon, je suis assez grande, je peux me débrouiller toute seule. Je voyais bien que ma fille n'était pas très, très organisée pour étudier. Je voyais bien que ça ne se passait pas très bien. Mais à ce moment-là, elle voulait prendre toute son autonomie. Elle me disait, Mais enfin, maman, je suis quand même assez grande. Et là, je finis par me dire, OK, elle me demande quelque chose, je vais la laisser se mettre en place. Donc, c'est pas ce qui devait se passer à la fin de l'année. On m'annonce qu'elle va doubler. Elle s'écroule. Et là, j'ai relativisé. J'ai relativisé en me disant, parce qu'au début, je me suis dit, c'est catastrophique, je le savais. Là, c'est mon émotionnel, vous voyez, qui revient sur le dessus et qui me dit, c'est grave, elle redouble, et je le savais, et c'est nul, et j'aurais dû m'en occuper, j'aurais pas dû la laisser faire tout ça. Mais ça sert à rien, c'est passé, c'est passé. Donc j'ai relativisé, je me suis dit, est-ce que c'est si grave ? Non, incontestablement, quand un enfant double, c'est pas si grave que ça. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas maladie. Qu'est-ce que j'en penserai dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'aurais oublié que ma fille a redoublé une année. Est-ce que ça met sa scolarité en péril ? Incontestablement, non. Elle est née la fin de l'année, donc elle était plutôt en avance, puisqu'elle était rentrée à l'école avec ceux l'année suivante. Donc, c'était pas très grave. Relativiser, c'est ça. C'est prendre du recul. C'est plutôt que d'être le nez dans cette nouvelle en me disant « c'est grave et je le savais », c'est prendre du recul, mettre en perspective. Qu'est-ce que j'ai fait grâce à ça ? C'est que j'ai pu rester calme. En restant calme, je suis restée sur cette valeur de ma fille qui me disait « maman, laisse-moi gérer ça toute seule ». Au bout de 15 jours, c'était long 15 jours, hein, au bout de 15 jours, ma fille est revenue en me disant « tu sais maman, je crois qu'en fin de compte, je sais pourquoi je vais doubler ». Je dis « ah bon ?» Je fais un peu la faux naïve, hein. Je dis, ah bon, tu sais pourquoi tu vas doubler ? Il me dit, oui, tu sais que, quand je t'ai un peu menti, quand je t'ai dit que je ne regardais jamais la télé, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que de temps en temps, je la regardais un peu en rentrant de l'école. Et tu sais, hein, je crois qu'en fin de compte, je n'ai pas assez travaillé. Et là, je me dis, chouette. C'est parce que j'ai su relativiser et donc garder suffisamment de calme qu'en fin de compte, j'ai laissé ma fille ruminer. Alors, ce n'était pas facile en tant que maman, hein, parce qu'il y avait une partie de moi qui me disait que, ce que je suis vraiment en train d'agir. Bah sur le moment, non, j'agissais pas. Je faisais confiance à la capacité de réflexion de ma fille. Alors, quand on a agi comme ça une fois, on se rend compte que les choses les plus importantes, elles se passent sur la longueur. Donc, c'est important à certains moments, laisser les gens que vous aimez faire leur propre route pour arriver à vos conclusions. Parfois, sur certaines expériences de la vie, vous aurez déjà vu les avantages, les inconvénients. Donc, vous verrez ce qu'il faut faire. Mais l'autre, il n'est pas encore mûr. Il n'est pas encore prêt. Et ça ne sert à rien, ce que vous lui dites, parce qu'il n'écoute pas. Donc, laissez la personne faire son propre chemin. Laissez-lui le temps d'arriver à la conclusion à laquelle vous êtes déjà arrivé. Parfois, ça peut prendre des années, hein. Et c'est le plus difficile en tant que parent, c'est que parfois, on a déjà compris des choses. Et on voudrait que nos enfants le comprennent. Mais il comprendra peut-être quand ils auront notre âge, ou peut-être plus tard, peut-être jamais. Peut-être qu'ils comprendront d'autres choses que nous, on n'a pas compris.
Et c'est là aussi où on voit bien que les cerveaux ne s'opposent pas. C'est-à-dire là, on rejoint les émotions positives. Oui. Une émotion positive, elle est aussi un appui pour vivre, ou pour grandir même, puisqu'on parle des ados. Et donc, votre fille, elle a fait cette expérience positive quoi, de maturation. Oui. Et vous aussi, vous avez fait cette expérience positive de lui faire confiance et d'attendre.
Tout à fait. Et dans, ce que vous dites est très, très important, parce que dans cette expérience positive, Tatiana, qu'est-ce qu'elle a vécu ? Elle a vécu que sa mère lui faisait confiance. Elle a vécu sa valeur d'autonomie. Et c'est très important pour elle. C'est une jeune femme, bon, elle a 22 ans aujourd'hui, qui aime y arriver. Donc, être autonome, c'est important pour elle. Et cet échec, elle le vivait encore plus mal que moi. Donc le fait que je ne la juge pas sur cet échec a renforcé sa capacité d'autonomie. Donc a renforcé sa capacité à continuer à avancer, à continuer à se battre. Moi, ça a été très positif parce que je me dis, chouette, Tatiana a la capacité de gérer quelque chose. Moi, je me suis dit, ben, chouette, je ne suis pas si indispensable que ça non plus. Et je me dis, et j'ai su me faire confiance aussi. Donc finalement, sur cette expérience qui au départ aurait pu être négative, on en a sorti beaucoup plus de positifs. Et ça peut être applicable à pratiquement toutes les expériences de la vie. Dès qu'on arrive à se dire, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ça ? Qu'est-ce que je retire de cette expérience ? Mais vous verrez que c'est souvent les épreuves les plus difficiles de la vie qui nous font voir le plus de positifs. Ce sont souvent sur la longueur, celle qui nous amène le plus de créativité.
La sagesse populaire dit déjà quelque chose malheur est bon, mm-hmm. à condition justement qu'on fasse la démarche que vous recommandez dans votre livre, c'est-à-dire analyser l'expérience. Oui. Et vous avez une quinzaine d'exercices qui sont dispersés dans l'ouvrage, étape par étape, qui nous amène justement à cette auto-analyse.
Oui.
Et c'est très important justement pour passer de la théorie à la pratique, en somme.
Oui, tout à fait. Pour être, parce qu'une fois qu'on a, on a parlé de la façon dont notre cerveau fonctionne, c'est très bien. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et comment est-ce qu'au quotidien, ben, je peux amplifier ma sérénité ? Comment est-ce que je peux, résoudre ces conflits que j'ai du mal à gérer ? Et pour ça, effectivement, j'avais envie de donner tout un tas de petits exercices très pratiques. Et comme dans tout, moi, je vous incitais à, si vous voulez changer, pratiquez. C'est-à-dire que si vous voulez jouer au tennis, il ne suffit pas de lire des manuels de tennis, ni d'acheter une balle, ni d'acheter une raquette. C'est aller taper sur votre balle de tennis, tous les jours ou toutes les semaines. Si vous voulez changer quelque chose dans la relation avec quelqu'un, entraînez-vous tous les jours à faire quelque chose de différent. Et commencez d'abord par le plus facile, ce qui dépend de vous. Donc si partout vous vous sentez que vous démarrez au quart de tour quelque part, ou vous sentez que vous avez de l'agressivité, allez d'abord commencer par changer ce comportement-là. Et c'est sur la longueur que ça change. C'est sur la longueur que ça devient facile.
Oui, c'est d'autant plus vrai que dans ce que vous avez décrit, hein, sur les quatre pilotes du cerveau, il y en a trois qui ne lâchent pas facilement les commandes. Quoi. Mm-hmm. Et finalement, c'est le plus difficile d'arriver à confier les commandes au cerveau préfrontal, enfin celui qui réfléchit, oui. qui est ouvert, qui est souple, qui est adaptable.
Tout à fait.
C'est le plus difficile. Donc, ne pratique pas de manière à mettre en place quand même un certain automatisme mm-hmm. dans ce lâcher-prise, on aura toujours finalement le cerveau pris par les trois autres pilotes.
Oui. C'est le plus difficile, mais en même temps, si je fais une analogie, c'est un petit peu comme si vous huiliez le passage du pilote. Vous voyez, c'est comme s'il y avait deux pièces différentes. Plus vous allez huiler la porte et plus vous allez l'ouvrir souvent, plus ça sera facile de passer d'une porte à l'autre, d'une pièce à l'autre. Ben là, c'est pareil. Plus vous allez vous habituer à prendre du recul, à nuancer, à mettre votre monde en perspective et être curieux en disant, mais tiens, l'autre me dit ça. Et pourquoi il me dit ça ? Vous voyez, plutôt de se dire, il m'a dit ça, quel con. Vous voyez, plutôt que d'être dans l'affirmation, posez-vous la question, plus vous allez faire ça, plus votre cerveau va prendre l'habitude de faire ça. Donc si demain, vous avez quelqu'un qui vous agresse, la première chose que vous ferez, c'est vous dire, bah, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, si vous avez arrêté de vous poser des questions, si quelqu'un vous agresse, vous commencerez par être sur la défensive. Si vous avez huilé votre cerveau, eh bien, automatiquement, sans vous poser la question, vous mettrez en ouverture. Et on est beaucoup plus malin, on va beaucoup plus loin quand on se met en ouverture. Donc c'est vraiment, je parle beaucoup de cette pratique, et à partir du moment où vous allez toucher aux bénéfices, donc vous allez voir que, tiens, j'arrive à garder mon calme là où j'arrivais pas à le garder avant, ou j'arrive à être motivée là où avant je l'étais pas. Au début, on gagne un petit pourcent. Et quand on sait regarder ce petit pourcent, on continue à le faire, puis on gagne 2%, et puis 4%. Et vous voyez, au début, on était sur des skis, on fait du chasse-neige, et puis d'un coup, on se dit « Ah, oh, j'ai fait toute seule cette piste verte !» Et ça glisse tout seul. Donc, comme dans tout ce que vous faites régulièrement, arrive un moment où ça se fait automatiquement. Donc, arrive un moment où on a baissé son niveau de stress et on a amplifié sa capacité à être plus serein. Et c'est à pratiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comment on se brosse les dents ? Tous les jours. Il ne suffit pas de se brosser les dents une fois pour qu'elles restent blanches. C'est tous les jours qu'on doit se les brosser. Mais on finit par même plus y penser. Ça finit même par être désagréable quand on ne sait pas brosser les dents. Ben, c'est pareil. À la fin, ça finit par être désagréable quand on passe par le stress.
Voilà. Et le livre donc s'inscrit bien dans une pédagogie de la réussite. On a envie mm-hmm. de le conseiller à des professeurs.
Oui. Et c'est ce qu'on fait beaucoup. Moi, j'interviens beaucoup dans les écoles. Donc, je donne pas mal de formations. Alors d'abord, parce que je pense que le monde peut changer qu'à partir du moment où nous, humains, on va être éduqués. Et que plus nous serons éduqués, moins il y aura de violence, moins il y aura d'incompréhension. Donc, je travaille avec des organismes où on va donner cette grille de lecture à des professeurs pour les inciter à gérer différemment la différence, l'agressivité, la non-motivation des jeunes, leur difficulté à apprendre. Voilà, c'est un outil qui parle en général assez bien au monde de l'enseignement.
Est-ce que vous avez prévu d'en écrire un autre, puisque je crois que c'est votre premier livre ?
Tout à fait, c'était mon premier livre.
Alors, en écrire un autre sur le monde du travail. peut-être.
Alors, il y en a un entre-temps qui va sortir, que j'ai écrit en collaboration avec les Canadiens, qui est toujours dans le monde de l'harmonie en famille, qui va sortir en septembre-octobre, mais où là, je vais décliner plutôt selon les personnalités, c'est-à-dire en quoi des personnalités différentes vont faire qu'on ne se comprend pas. Et puis, un livre que j'écris toute seule, qui parle toujours du stress, mais du stress dans le monde du travail, dans les vies professionnelles, et qui sortira normalement en octobre 2015, toujours aux éditions de l'Homme.
Voilà. Alors, comment en êtes-vous arrivée aux éditions de l'Homme, qui sont, je crois, basées au Québec ?
Alors, j'en suis arrivée aux éditions de l'Homme, tout simplement parce que, moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. C'était une histoire de petite fille, donc j'ai des caisses remplies de livres. Catherine est une amie, donc on a écrit ce livre à deux, parce qu'elle me parlait d'écrire un livre depuis très longtemps, et je lui dis, tu me barbes avec ton livre que tu n'écriras jamais. Si tu veux, moi, je vais te l'écrire. Et puis, on s'est posé, et puis finalement, voilà, on a écrit ce livre. Quand il était terminé, j'ai envoyé le livre à des éditeurs en Belgique, puisque j'habite à Bruxelles, à des petits éditeurs qui m'ont dit oui. Je me dis, ah, chouette, s'ils me disent oui, peut-être essayer à une deuxième série d'éditeurs. Puis la deuxième série d'éditeurs m'a dit oui, donc j'ai agrandi. Je suis allée voir des éditeurs de plus grand renom. Et puis quand de grands éditeurs m'ont dit oui en France, je me dis, mais moi finalement, je vais aller chez les gens que je voudrais. J'avais toujours rêvé d'être éditée aux éditions de l'Homme, qui pour moi représente vraiment la maison prestigieuse de tout ce qui est psychologie ou développement personnel. Et les Canadiens m'ont dit oui de suite. Alors, c'est un pur bonheur. Ouais, c'est vraiment très chouette de travailler avec eux. Ils sont très préfrontaux. Je trouve qu'ils ont un beau territoire adaptatif. Il y a des cultures aussi. On dit qu'il y a des cultures de la préfrontalité. Plus vous êtes entouré de gens qui vont être sereins, qui vont vous poser des questions, qui vont vous amener à nuancer, plus vous le serez. Plus vous êtes entouré de gens bornés et rigides, plus vous deviendrez bornés et rigides. Donc là aussi, ça peut être un choix à faire. Si vous avez envie de vous ouvrir, allez vers les gens ouverts. Aller vers les personnes qui, dans votre entourage, vous inspirent cette bienveillance et vous inspirent cette prise de recul.
C'est là où le monde du travail vous attend.
Voilà.
Parce qu'il y a quand même des personnalités toxiques dans le monde du travail.
Oui, il y a des personnalités toxiques, je pense, partout. Mais il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'on peut soi-même tous devenir extrêmement toxiques pour l'autre à partir du moment où... On estime que notre façon de voir les choses est la seule et la bonne. Parce qu'on devient on peut devenir très violent dans les propos. On peut vraiment, en voulant imposer notre vision. Et notre vision est toujours la bonne. C'est-à-dire que la vision que j'ai, moi, la situation, c'est celle-là. Je vous vois avec la vue sur la rue. Si je pars du principe que la librairie Mola, ce qu'on voit à la librairie Mola, c'est ça, je vais être très rigide. Si j'oublie que ce qu'il y a à la librairie Mola, c'est aussi ce que vous voyez. Et ce que vous voyez n'a rien à voir avec ce que je vois, moi. Donc une relation toxique, c'est à partir du moment où j'oublie que mon point de vue n'est jamais que mon point de vue. Et si je veux avoir une vision globale, c'est intéressant que je demande à monsieur, tiens, qu'est-ce que vous voyez de là où vous êtes ?
Merci beaucoup.
Merci à vous, en tout cas. Merci d'être venu.